Et bienvenue sur Radio Béton 93.6, l'émission Qu'est-ce qu'on bouffe. On va réexpliquer comme à chaque fois. Vous commencez à être habitué, je pense, toutes les personnes qui nous connaissent. Mais pour les personnes qui ne nous connaissent pas, on réexplique un petit peu. C'est quoi Qu'est-ce qu'on bouffe?
Et bah, 3 mercredis par mois, une émission sur Radio Béton 93.6 de 10h à 11h sur la bouffe locale, où on invite un peu des acteurs de la gastronomie locale, plutôt engagés sur des produits bio, naturels, vignerons, vigneronnes, maraîchères, maraîchers, restaurateurs, cuisinières, voilà, un peu tout le monde, des sommelières également.
Exactement, on fait un petit tour
du panel.
Ouais, c'est ça, petit tour de la question, exactement. Petit sommaire de l'émission, on a un invité cette semaine, comme toutes les semaines, là, c'est un invité, on va en parler après. Tu peux dire bonjour quand même si tu veux. Mais...
Bonjour les auditeurs.
Les auditeurs,
ah, pour ceux qui pourraient reconnaître la voix parce qu'il
on
est,
dit pas,
il est
on
connu
dit pas.
Dans le quartier.
Alors, c'était marqué sur Instagram, encore une fois, il n'y a pas trop de surprises. Petit sommaire de l'émission, on va parler de l'invité. Entre autres, hein, on va en parler toute l'émission évidemment. On va avoir des petits jeux. T'aimes bien jouer?
Bien sûr.
T'avais déjà écouté les autres émissions, t'as vu à peu près à quoi ça ressemble les jeux de toute façon. Pas très compliqué, hein, c'est pas le but non plus.
Ouais, c'est Maxime qui travaille sur le sujet, on est à peu près peinard.
Ouais, c'est ça, exactement. Je fais des trucs calés, tu vois. On va faire le fil rouge de l'émission. Cette semaine, si tout va bien, on
a la bouteille mystère, toujours sélectionnée par Fanfan chez Gaster pour l'instant. Il y a une bouteille dont personne n'a aucune information. Mm. Elle est cachée dans une chaussette et on la découvre en direct, on la débouche, on la déguste et on essaye d'analyser et de trouver ce que c'est.
Et ça permet de parler un peu du vin et de vulgariser tout ça. Je sais que tu sais très bien le faire. On va en reparler un petit peu plus tard.
D'ailleurs, il y a 7 bouteilles mystère aujourd'hui pour l'invité.
Ouais.
La fourbe, la fanfan.
Grave, il y a beaucoup de bouteilles. Et puis, bah, le plat principal, surtout parler de l'invité, son, bah, ton parcours, on va faire un petit tour non exhaustif parce qu'en une heure, on n'a pas le temps de tout parler, de toute façon, mais faire quand même un petit tour de la question. Et puis après, petite recommandation aussi de Robin, en général, qui aime bien nous parler d'un petit conseil d'un produit de
culinaire,
saison.
Culinaire, ouais, carrément. Attention, il va falloir que je me creuse la tête parce qu'on reste dans la fin de la saison d'hiver et du coup, la diversité des produits est un peu moindre que... Qu'au printemps,
ouais,
on était
un peu moins. Mais bon, tu vas encore nous trouver des
solutions. Ouais, on va trouver une solution sans problème.
Et surtout, cette semaine, on a viré Simon. Voilà, faut le dire, Maître Capello, il est pas là. Non, je rigole, il est malade. Et c'est Sand qui nous accompagne. Bonjour Sand.
Salut tout le monde.
Vous connaissez déjà, c'est Radio Béton
et
en plus.
Oui, dans la team Glarewitch, vous l'avez entendu hier matin.
Oui,
exactement. Ouais,
et on entend le samedi aussi pour la rediff.
Voilà, exactement. Vous pouvez l'entendre souvent quand même, depuis pas mal d'années maintenant, en plus.
Ouais, ça commence à faire.
Bienvenue à Qu'est-ce qu'on bouffe.
Eh ben merci.
Hey, on va voir si tu dégustes comme Simon.
Ouais, je suis pas sûr ça.
Ouais, bah, on verra, mais tu vas jouer au jeu de toute façon aussi.
Bah écoute, ouais, je suis un petit peu nul moi quand même pour reconnaître le vin, mais
ouais, non,
mais ça me va de boire un coup.
Pour la bouteille mystère, c'est une chose, mais pour les petits jeux.
Ah hein, oui, bien sûr.
T'en fais pas, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de bons résultats non plus.
Oui, non, de toute façon, il y a pas de problème. Et puis, normalement, on l'appelle Maître Capello. Est-ce que tu as un blaze, un... Non, t'as pas de nom.
Fallait me faire réfléchir à ça plus tôt, j'en sais rien, je suis nul en impro.
Tu nous redis au fur et à mesure, on va trouver un nom.
T'as pas, ouais, c'est pas un souci.
Un blaze de rappeuse, un truc comme ça, t'as pas?
Bah, je t'avoue qu'on a tendance à m'appeler Sandwich, vu que je suis dans Glarewitch et que je m'appelle Sand, mais c'est pas ouf.
Non, c'est pas ouf, on va pas le garder celui-là. Voilà. On va dire Sand pour l'instant, ça va être très bien. Ça va être pas mal. Alors, l'invité, du coup, vous avez entendu sa douce voix, mais qui est-ce? Alors, notre invité aujourd'hui est sommelier de formation. Après un BEP service de restaurant et une mention complémentaire sommelier barman, il travaille à tour de rôle. Alors attention, je dis à tour de rôle, je vais pas faire dans l'ordre, et puis c'est pas un CV là, c'est une liste de courses pour un Noël d'une famille de 20 personnes, on va pas tout faire parce que c'est un peu long quand même. Il travaille à la Chancelière, chez Charles Barrier, le Gavroche, l'Auberge du XIIe siècle, Château d'Artigny. Il a également bougé un peu en Suisse, au Luxembourg, entre autres, hein, il me faudra, comme je disais, plus d'une heure pour parler de tout ça. On va abréger. À présent, il est co-gérant de Quai de Loire, et oui, bah il vend toujours du vin, ça va pas changer. Pour beaucoup, c'est un des plus grands défenseurs des vins nature de la région, et puis même d'ailleurs, et ce depuis longtemps. Il est né le même jour que Bernard Loiseau, classe, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas Bernard Loiseau, triple étoilé Michelin, et puis un des premiers chefs un peu médiatiques aussi.
Ouais, la fin un peu compliquée, mais
c'est un autre problème. Voilà, c'est un autre problème. Et il est né le même jour que mon père, voilà. Écoute, je ne te parlerai pas tout le long de l'émission. Ah, vous êtes né le même jour.
Même année?
Pas même année, okay. Un petit 12 ans d'écart quand même. Ouais, tu vois, t'es plus jeune. De l'histoire du vin nature, il va nous parler, une histoire de cuisine qu'il va nous mijoter, une histoire de passion, de rire et de copains. On a la chance d'accueillir Christophe Roublin.
Bonjour à tous.
Salut.
Salut Christophe.
Ravi d'être avec vous.
Bah, on est très content de t'avoir. On a fait un petit tour de plein de personnes qui sont déjà passées, des copains, des potes, des gens avec qui on
bosse. Et comme certains l'ont dit, ça fait un peu mafia, mais le circuit des produits propres et tout, on se croise un peu tous, en tout cas dans les manifestations.
Ouais, surtout dès qu'on parle un peu de vin nature et tout ça, on a parlé avec des vignerons. Forcément, on finit très vite par parler de toi aussi parce que t'es là depuis un moment. Alors, c'est pas pour dire quel âge tu as forcément et tout ça, mais c'est juste que bah, ça fait un moment que t'es dans le circuit et que tu connais un peu tous les vignerons qu'on connaît aussi.
Il a pris des résas sur Minitel, Christophe, dans les restos. Donc
ouais, j'ai connu.
Ah, on pouvait prendre des résas par Minitel. Je sais même pas. Incroyable.
Ouais, je suis pas sûr.
Non, je suis pas sûr. 36-15, cri-cri. Comment tu vas sinon en ce moment, ce début d'année?
Très bien.
À la forme?
Très bien. Je ne fais pas le dry January, donc je me porte très bien.
Mais j'ai l'impression que beaucoup moins de monde le fait. Tu vois, l'an dernier, nous, au restaurant, par exemple, chez Gaster, ça avait été un mois assez flagrant où beaucoup de gens ne buvaient pas, bouffaient un peu moins, etc. Et cette année, je me suis largement fait surprendre. C'est pas du tout le cas, quoi.
Il fait plus
étonnant,
froid.
Je sais pas pourquoi, mais
le temps est maussade. Les gens ont plus besoin de ça. Je sais pas. Enfin, besoin, c'est un grand mot.
Oui, puis on est aussi ultra déprimé par l'actualité, je crois.
Ouais, non, bah c'est clair.
Ça aide pas à être sobre, je crois.
T'as raison.
Non, ouais, clairement, ça aide pas du tout à être sobre. Bon, moi, petit jeu, on va commencer par là. Histoire 2. Vu qu'on défend beaucoup les produits bien travaillés avec une éthique. Contre le gaspillage alimentaire, un petit jeu sur le Guinness Book des records, histoire de bien plomber tout ce qu'on défend. Voilà, je tenais à en parler un petit peu, parce que là, en termes de gaspillage alimentaire, on est forcément au top. Est-ce qu'on a besoin de manger autant de trucs pour établir un record? Je suis pas sûr. Donc, je vais vous demander à chaque fois un petit record et essayer de trouver le nombre, à peu près, plus ou moins, de savoir le combien au plus a été mangé de telle ou telle chose, quoi, tout simplement. Alors, on va commencer par le plus de hot dogs mangés en 10 minutes.
Crah, c'est un truc d'américain en plus.
Ah bah oui, bah, y a beaucoup de trucs d'américains. Et en vrai, il y a beaucoup d'américains. Et en faisant les recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'indiens. Il y a un petit délire apparemment là-dessus. C'est les deux pays qui se font un peu la guéguerre sur le Guinness Book des records.
Ok.
Et voilà. Et en 10 minutes, c'est quoi le record de hot dogs mangés? Ah, une fourchette.
En 10 minutes, on va
pas,
dire...
une vingtaine. Non, plus, 10 minutes, ouais. C'est long, il y en a qui les engloutissent.
Ouais, moi je pense qu'un.
La taille du hot dog, le poids, la contenance.
Ouais.
Bah, si le gars les gobe, ça 50. Peut dépasser les 100. Hein.
Ouais, non, c'est pas gobé à chaque fois non plus. Je pense qu'à la fin, ça passe un peu moins bien.
Ouais,
quoi,
si tu m'étonnes. Ouais, allez, une quarantaine. Fourchette 40.
Bah oui, maintenant je vais dire un peu pareil, j'ai aucune idée.
Ouais, c'est dur, hein. Sand?
Je dirais 60.
Eh ben, on est à 69.
Putain, mais 69 hot dogs.
L'américain Joey Chestnut. Ça veut dire châtaigne, tout simplement, ça n'a aucun rapport, mais il est surnommé Joe, donc la mâchoire quand même. Dans le milieu, là, apparemment, le mec il est quand même calé, c'est un record qui date du 4 juillet 2013. Le plus grand nombre de piments.
La personne est à l'hôpital depuis le 15 août 2013.
Ouais, bah, c'est ça, exactement. Le plus grand nombre de piments, alors les bouts de Jolokia, qui sont considérés comme les piments un des piments les plus puissants au monde. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 400 fois plus fort que le Tabasco.
Parfait.
Commence à faire un petit peu. Donc, combien ont été mangés en 2 minutes? Donc là, c'est beaucoup plus petit. Par contre, ça arrache un peu plus. Donc, combien de ces piments ont été mangés en 2 minutes?
Je sais pas, parce qu'en plus, pour avoir fait l'expérience, pas du tout dans un but de record et tout, mais j'aime bien manger épicé. J'aime beaucoup les piments. On en teste plein, on en essaye plein. Et j'ai pu en goûter des hyper forts. C'est un peu injouable, quoi. Donc,
c'est un peu compliqué.
Si c'est un piment hyper fort, je sais pas. Si déjà il en a mangé 3, le gars, 4, c'est
une indienne, du coup.
Ok, oui. Les gens prennent un peu là, c'est l'entraînement qui fait le champion. Donc, si tu veux, faut avoir une tolérance.
C'est pas facile à dire, mais un chiffre au pif.
Allez, 10, 1 par minute.
Ah, ouais, moi, je vais pas plus loin que 3-4.
Ah, c'était 2 minutes. 2 minutes, ouais.
Bah, allez,
combien, Robin?
Ah, je te dis, je m'arrête à 3-4. C'est le retour de Colette aussi dans cette émission dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure.
C'est une bande son, on l'a fait diffuser de temps en temps pour vous faire croire qu'elle est. Non, elle est vraiment, elle est vraiment là, la mascotte. 10, c'est quelle? 3, tu disais?
Ah, Colette, elle fait 3 avec les mains, donc je suis.
3, Sand, une idée?
Bah, j'aurais dit 4.
Ouais, bah, 60 en 2 minutes.
Mais à quel moment? Elle va bien? Elle est encore vivante?
Je sais pas, mais je crois qu'elle doit avoir un truc qui déconne au bout d'un moment dans le palais, quoi. Il manque.
Mais même dans le ventre, mec. En digestion, tu vois. Genre, le problème du piment, c'est que même ceux qui supportent bien la chaleur, il y a un moment où ça brûle un peu le système digestif.
C'est ça, exactement.
Et pas que.
Non, mais en plus, moi,
en sortie de chaîne, c'est pareil, quoi. c'est pas grave.
J'ai trouvé une vidéo, du coup, de l'Indienne qui était en train de faire ça. Donc, télévision indienne, une vieille vidéo sur YouTube. C'était dégueulasse à regarder, la qualité de la vidéo. Mais tu la vois manger, puis à la fin, elle se frotte les yeux avec les piments. Mais pas avec les doigts, hein, avec les piments directement. Je pense qu'il y a un gros problème.
Ouais, elle doit avoir une structure physique un peu particulière pour. Ouais,
bah, je sais pas si elle est toujours vivante surtout. Et je t'ai dit des bêtises, pardon. Elle, okay, elle en a mangé 51. Et par contre, elle a été dépassée, détrônée par un Trinidad qui s'appelle, juste pour le nom, Moruga Scorpion. Le mec, son de famille, c'est Scorpion.
Je pense que ça, ça en dit long. Ouais, c'est des blazes.
Ouais, grave, exactement. Lui, il en a mangé 60, pardon, autant pour moi. La pizza la plus chère au monde, combien de cakes coûte?
Oh, wow.
En euros?
C'est en dollars. C'est encore les Américains.
Je sais pas.
C'est l'autre. C'est une pizza, hein, donc
c'est
pas
l'autre gros malin avec son sel là, non?
Non, bah non,
un truc à 100 dollars.
Ouais, c'est une pizza genre de taille normale.
De taille normale, c'est les ingrédients qui sont dessus qui font varier un petit peu la balance.
Mais non, ça peut exploser, je pense. Je sais pas, il y a bien des abrutis qui trouvent on est encore aux États-Unis, donc.
Ouais, bah, pardon, non, c'est ça.
Une 28 cm, une 56, une.
J'ai pas le diamètre, je suis désolé, j'avais pas le détail là-dessus. Bon, je vous le donne parce qu'il est pas facile celui-là, ça coûte 450 dollars la pizza. Entre autres, dessus, on va retrouver du saumon fumé, des crevettes tigrées géantes, du homard, du caviar de Russie. Voilà.
Au moins, ils ont fait une recette genre qui a un peu de sens, pas empilée, tu sais, la truffe, le foie gras, le homard pour faire grimper le tarot, quoi.
Non, non, bah heureusement, c'est une pizzeria.
Un peu de sens. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'on a envie
juste
de manger
un peu,
sur une
juste
pizza,
un peu de
mais,
sens.
Mais en tout cas, c'est...
un restaurant, le Stevenson Pizza à Richmond, en Colombie-Britannique, qui a fait ça. Mm-hmm. Je sais pas s'ils en ont vendu beaucoup, mais en tout cas, bon, y a toujours des gens qui viennent acheter des trucs comme ça, quoi. C'est Cédric Grolet qui a fait le sandwich parisien. Donc le jambon beurre classique à 30
ouais,
euros.
Ouais, mais il s'était fait un peu plier sur les réseaux
ouais,
et
un peu, ouais,
tout le
ouais.
monde l'avait un peu taillé quoi. Je crois que c'est
voilà.
fait un...
la proportion. Le plus de bière décapsulée avec les dents en une minute. Ah pareil, je vous raconte pas l'état du dentier, je pense à la fin, tu vois. Et c'est encore un Indien. C'est pour ça que je te dis, tu vois, il y a des Indiens qui ont quand même des hobbies très bizarres.
En une minute.
En une minute, combien tu décapsules
ouais,
de bière
pas, 50.
En une minute, ouais, j'avoue, une minute.
Et ouais, j'aurais dit 50 aussi.
Ouais, Christophe ouais. a raison, je m'aligne.
Ouais, tout le monde s'aligne, 68.
Ok.
Pas mal quand même. Effectivement, ouais. je veux pas savoir l'état de la dentition de la personne.
On l'embauche au bistrot 64.
Des capsules en office.
C'est clair, pour aller vite. Et puis du coup, le plus grand nombre... Alors pour les personnes qui aiment pas ça, ça va être pénible à imaginer, mais le plus grand nombre d'huîtres mangées en 8 minutes. Elles sont déjà ouvertes, hein. Il n'y a pas besoin de les ouvrir en plus à chaque fois.
Ah, ça peut être beaucoup.
Ah, ça c'est beaucoup, ouais. Je confirme.
Genre en 8 minutes les huîtres, j'ai commencé à se gober. Tout. Bah, mais là, moi, ouais. en fait, à chaque fois que je dors dans ce jeu, malheureusement, je pense surtout à ce qui se passe après.
Non, mais fais pas ça, fais pas ça.
Faire le record, mais une
tu
fois
penses
que t'as
au système digestif des gens,
cette
quoi.
Cette quantité ouais. de ces aliments, c'est. Ouais.
Moi, c'est je vais dire 4 douzaines.
Ouais, je l'ai plus à la douzaine. Du coup, j'ai marqué le total, c'est 564.
Oh, waouh!
Je crois que ça fait 48 douzaines. Je suis très
ouais,
bon en
maths. Ouais, comme ça.
En 8 minutes. Voilà. Donc, je sais non, pas les âges de la personne
si
derrière.
Si tu les mets, par exemple, dans un récipient et que tu mets les 564 huîtres.
Ouais. Et juste, tu prends ton bol comme un bol de soupe, quoi.
Tu vois le volume que ça fait. Ça veut dire que t'as ça dans le ventre d'huîtres.
Et puis, en plus, il suffit d'une seule mauvaise huître pour qu'il y ait tout qui sort derrière. Enfin, ouais. bref, voilà. Passe à autre chose derrière. Je vous refais une petite devinette, vite fait un petit peu, parce que je suis tombé dessus là il y a pas très longtemps. Je me suis renseigné, je trouvais ça un peu bizarre. Il y a une nouvelle trend, bon, des trucs TikTok ou Twitter, je sais même plus sur ce sur quoi c'était, mais une nouvelle mode culinaire un petit peu qu'il y a eu en Chine, dans le nord-est de la Chine. Mais en quoi ça consiste? Je vous demande de trouver.
C'est une cuisson.
C'est une cuisson.
Ok.
C'est surtout l'aliment de base qui est un peu particulier.
Mais c'est une cuisson spéciale.
Je pense pas qu'elle soit spéciale.
D'accord.
On est sur de la street food.
C'est végétal ou animal?
Ni l'autre.
Ouais.
Ah, c'est des cailloux. Genre, ok. C'est minéral.
C'est minéral, ouais.
Ouais, c'est minéral, on va dire. Ouais.
Ah, ou alors, ça vient d'un animal ou pas du tout?
Ou de la terre, non? Cuisiné de la terre, bouilli de la terre, cuit de la terre?
Non, ouais, c'est un peu, il est pas facile à trouver celui-là, il est un peu technique si tu l'as pas vu.
La lave de volcan refroidie.
Il y a un délire avec ça en fait, ça tourne un petit peu autour de ça, alors c'est pas de la lave en l'occurrence, mais c'est plutôt un liquide qu'on a solidifié.
Du magma?
Non. Ils sont un peu ouf quand même les Chinois, mais pas ce point, tu vois, non plus. Non, allez, je vous le donne parce qu'il est pas facile. C'est tout simplement des cubes de glaçons. En fait, ils s'embêtent à mettre à congeler des cubes de glaçons et ils le passent sur un grill qui viennent assaisonner. C'est dur de parler ce matin. Assaisonner avec du cumin, avec des piments, un petit peu d'oignon et de la coriandre. Mettent dans des barquettes et puis ils font bouffer ça aux gens.
Mais les glaçons de l'eau, d'eau,
d'eau, d'eau. D'eau. Mais je sais pas parce qu'ils tiennent bien. Enfin, ils sont sur un grill qui est censé être chaud. ils le mettent dessus juste le temps d'assaisonner le truc et ils servent ça aux gens à manger comme ça.
Genre un glaçon en train de fondre avec des épices, quoi.
Ouais, exactement.
Rentable.
Ouais, très rentable. Bon, ils vendent ça $2.
La matière première. Alors après, c'est pareil, voilà. Ça dépend d'où t'es, de l'énergie qu'il faut pour faire ton glaçon. Mais...
Ouais, c'est ça, exactement. Mais bon, c'est, voilà, j'ai vu ça, j'ai halluciné. Et il y a des gens, du coup, c'est...
Ok, healthy.
Healthy, ouais, clairement, ouais. Y a tout qui est bon là-dedans, il n'y a pas de problème. Enfin bon, voilà. T'as appris des trucs ou pas, Christophe?
Oui, non, non,
des
mais...
Des trucs qui servent à rien, mais t'as appris des trucs.
Absolument.
Ouais, voilà, parce que ça servent à rien, là, pour le coup, en l'occurrence. On va peut-être s'ouvrir la bouteille mystère.
Allez.
Un petit peu... T'arrives à me faire un joli bruit, là, ou pas?
Non, ouais, aujourd'hui, je m'applique.
Vas-y, applique-toi.
Faut pas regarder le bouchon, puisque...
Ah, faut pas regarder le bouchon. Ça peut être des indices.
Ouais, il peut y avoir des indices dessus.
Allez. Pas mal. Je pense qu'on l'entend. Je pense qu'on entend plutôt pas mal. Et puis, on va commencer à servir ça dans les verres. On va commencer à réfléchir un petit peu à ce que c'est. Et puis, en attendant, Christophe, une petite musique que tu as envie de nous faire écouter, peut-être?
Avec plaisir, oui.
Alors, laquelle?
Par quoi on commence?
Allez,
plein de trucs.
C'est Byzance ici à Radio Béton ce matin.
Vous êtes toujours sur Radio Béton, dans l'émission Qu'est-ce qu'on bouffe ? S'il y a des gens qui arrivent à ce moment-là, bah, bienvenue. On reçoit aujourd'hui Christophe Roublin qui nous a partagé un son. Tu vas nous en parler un petit peu parce que tu nous en as parlé en off de ce groupe et de comment ça fonctionne. Mais je t'en prie, réexplique pour les auditoristes.
Oui, il y a une petite histoire.
Ouais, les Walili et les Beat Brothers, c'est un groupement de musiciens associatifs avec énormément d'acoustique. Et ils sont passionnés de vin vivant depuis toujours, tous. Et ils font des concerts dans les quatre coins de la France chez des vignerons vivants. Et en général, ils se font payer en liquide.
Pas en liquidité.
Ouais, c'est du troc un peu, quoi.
Ouais, c'est voilà, du troc, exactement.
C'est du troc
un
musique.
Un peu de musique compte un peu de breuvage.
Absolument.
Bah, il y a un vrai lien entre les deux, donc. Mais ouais, le collectif, enfin, et puis il tourne un peu partout, chez des copains vignerons, quoi.
Un peu partout en France, voilà. On peut les voir chez les bons vignerons. La plupart des vignerons les connaissent en général.
Ok, d'accord. Bah non, mais très cool en tout cas. Même le son et tout, ça donne la pêche. Je trouve de matin là, c'est impeccable.
Parfait.
Donc on est avec Christophe. Bah voilà, tu vas nous parler de toi, de ton parcours, de pourquoi t'as commencé là-dedans. Ouais, déjà, pourquoi la restauration ?
Pourquoi la restauration ? Je voulais faire du théâtre. C'était pas très pratique et il fallait faire des études et mon papa ne comptait pas à ce que je fasse ça.
Okay.
C'était un peu une altercation entre nous deux et du coup je me suis retrouvé sur une autre passion qui était le service, le restaurant et se mettre en scène et faire du théâtre en quelque sorte deux fois par jour.
Ouais, ça en fait une petite partie quoi.
Dans un restaurant.
Ouais.
Voilà, et après la passion du vin, elle m'a été poussée par un de mes premiers maître d'apprentissage quand j'étais à la Gueulardière à Sainte-Maure avec monsieur Autissier. Et puis après il y a eu une rencontre déterminante pour moi dans le monde du vin, c'est Christian Chaussard qui restera pour moi la personne qui m'emmène encore où je suis et à tout ce que je cautionne en fait.
Et donc, c'est marrant, tu vois, on en a déjà parlé, donc Christian Chaussard qui est le père de notre Simon qui fait la technique d'habitude
qu'on a viré donc, voilà. Malade, pardon.
Qu'on a viré, et de Simon et de ses frères et sœurs, parce que aujourd'hui, mais elle va pouvoir donner son avis sur la bouteille mystère. On a Lulu Chaussard, la frangine de Simon, qui est avec nous et qui nous aide à gérer Colette pendant l'émission que vous ne pouvez pas voir, mais qui parmi nous va avoir un avis sur la bouteille mystère qu'on a
Colette.
Commencé à ouvrir. Ma fille.
Oui, t'as dit elle va avoir un avis. Oui, ta fille.
Ah, bah Colette, elle va avoir son avis aussi. D'accord. On va pas tout comprendre, mais.
Ouais, elle aura des trucs à dire.
Elle aura sûrement la bonne réponse.
Et du coup, c'est vrai que la bouteille mystère, on en a pas parlé. Moi, j'ai enchaîné direct sur Christophe, mais qu'est-ce qu'on sent ? Alors, déjà, on commence par là. On a la radio, les gens savent pas trop. On est sur du vin rouge. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, je pense.
Oui, ça va ? Pas de problème.
Ouais, pas de problème. La
ça,
couleur.
C'est toujours une réponse assez facile.
Grave, exactement. Des idées ?
Ce qui est agréable, c'est que ce vin, on sent bien que c'est un vin qui a besoin de... C'est un vin vivant et entre l'ouverture et maintenant, il ne cesse d'évoluer, il ne cesse de nous donner de minute en minute d'autres parfums.
Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Sand.
Il ne connaît rien donc.
Bah oui, mais justement, parce qu'il a certaines un peu typicités et voir comment, à quoi toi ça te fait penser.
Ah, mais c'est hyper dur de parler de vin quand on n'a pas l'habitude de le faire.
Ouais, ouais.
Parle-en.
Tu me pièges de ouf.
Oui.
Si t'as pas la bonne réponse, vraiment, on te hue à la sortie.
Est-ce que ça te fait penser à un truc particulier, tu vois, que tu sens une odeur qui te rappelle quelque chose ?
Un fruit.
Ça va prendre 3 heures. Je suis pas sûr que ce soit hyper radiophonique.
Les gens ont le temps. Je pense que les gens ont le temps de nous écouter, y a pas de problème. Mais déjà, on sent des trucs. Alors certes, ça bouge, c'est quand même assez vivant. pas trop de points de réduction.
Petite, en attendant, petit rappel des vins vivants, mon Christophe.
Ah oui. Une petite définition.
Des vins qui sont sans intrants externes à leur propre matière. Et voilà, ça se résume comme ça en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire pas d'adjonction, pas de levure chimique.
Oui, pas de transformation œnologique avec des produits extérieurs. Voilà, c'est du jus de raisin fermenté et élevé, conduit d'une certaine manière, mais...
Voilà, avec des traitements raisonnés dans la vigne et être le moins possible interventionniste et au plus près du raisin possible.
Et du terroir aussi, de respecter un petit peu tout ça, ouais, effectivement. Mais en tout cas, ça sent, bon, il sent déjà un petit peu. Moi, j'ai le nez bouché, mais j'arrive à sentir quand même un petit peu. Donc
on fait une émission où personne tousse déjà et tout depuis,
ouais, bah,
depuis le début de l'année.
C'est clair, on n'a pas trop toussé là par rapport aux premières. Alors, moi, j'ai un petit peu de bois quand même. Quand on dit de bois, effectivement, on parle d'élevage du vin, on en a déjà parlé, mais on en reparle, on n'hésite pas.
Déjà, ça vous plaît ?
Déjà ? Moi, ça me plaît pas
mal. Carrément.
Ça, faut que ça s'ouvre encore un petit peu, je pense, mais voilà, ça, c'est déjà intéressant. Faut, moi, je veux bien lui laisser un petit peu de temps pour s'ouvrir encore. Mmh.
Et du coup, tu vois, Robin, pour te répondre, donc 5 minutes après, hein, comme je disais, il me faut du temps, je sens presque du cassis sonner.
Mmh. Absolument, le cassis, ah, il est venu là à l'ouverture. Il est en train de sublimer le côté un peu boisé, sous-bois plutôt, qu'on avait au départ.
Ouais, et... c'est côté un peu sous-bois qui fait un peu d'élevage. Ça paraît être un vin qui a déjà un petit peu d'âge, j'ai l'impression.
Alors moi, franchement, j'ai vraiment l'impression d'être de savoir ce que c'est. Hey. Mais ça, c'est horrible quand ça me fait ça, parce que ça peut être très tranchant. Et bah, je peux me tromper. Mais c'est vrai que ça m'emmène sur des cabernets, les cabernets du Veyron. Ça me fait penser à deux vignerons, voire trois précisément. Mais si,
j'avoue, c'est
si
un peu
je
la
dis
même
maintenant
sensation.
Ce que je pense, si je peux le faire,
il faut laisser un peu des, laisser un peu de temps, découvrir les, oui. les autres. On en va plus, prendre les autres avis, mais pareil, moi, ça me fait penser à deux personnes que je connais en tout cas.
On va voir si on se recoupe. Voilà, dans l'idée.
On le dira en même temps.
Oui, c'est ça. Un, deux, trois, en même temps. Ah, c'est parti. Et
donc rencontre avec le vin, Christian Chaussard, avec les vins en tout cas naturels.
Voilà, en fait, je faisais l'école buissonnière pour aller le rencontrer et au moins avoir des vrais cours et une vraie compréhension, surtout une.
Est-ce que tu l'avais rencontré où?
Une lecture du vin. Je l'ai rencontré lors de ma, chez mes premiers patrons puisqu'ils livraient du vin chez eux. Et du coup, je suis allé très rapidement passer beaucoup de mes lundis de congé à la saboterie.
C'était à Vouvray.
À Vouvray, absolument. Mmh. Absolument.
Et on parle de quelle année, à peu près?
On parle des 1987-1988.
Ok.
Ah, ça commence. C'est une histoire qui dure depuis longtemps, effectivement.
Et c'était aussi pour lui un peu les débuts, du coup, sur l'appellation Vouvray. Mm-hmm. Et à l'époque, il était difficile pour lui d'exister et de tenir son discours avec ses envies et ses engagements.
Oui, à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque sur l'appellation.
Absolument.
Ouais, même et encore à l'heure actuelle. Ouais, même encore à l'heure actuelle, on voit que ça a bougé. Et puis justement, je veux bien ton impression là-dessus, ton avis sur le sens que prend l'agriculture bio et même tout ce qui est le vin nature au global, de voir l'évolution que ça a un petit peu. Je pense qu'à cette époque-là, Christian, c'était une personne qui faisait un petit peu peut-être ovni dans le paysage viticole. Ils n'étaient pas beaucoup, je pense, à partager cette vision du travail. Donc toi, tu l'as partagé avec lui, mais tu fais pas du vin. Est-ce que à l'époque, c'était plus compliqué pour toi de trouver des gens qui travaillaient comme ça? Est-ce que c'était devenu un peu une base sur laquelle tu voulais t'appuyer les vins de Christian en disant « moi, je veux retrouver ce style de vin-là », mais c'était peut-être moins évident à cette époque-là?
C'était effectivement très difficile parce que justement, il fallait travailler et étudier sur les vins conventionnels, alors que moi, ma Madeleine de Proust, c'était les vins vivants. Et là, du coup, c'était très difficile, effectivement. Mais il y avait déjà un petit réseau qui existait et il y avait déjà des grands plaisirs dans toute région viticole de France avec au moins un ovni comme lui un peu partout.
Ouais, t'as d'autres noms un petit peu, des gens qui t'avaient marqué à cette époque-là?
Oui, bah les Marcel Lapierre à l'époque, c'était ce genre de vigneron.
Dans le Beaujolais, du coup, à Morgon.
Dans le Beaujolais, enfin, voilà. Après une rencontre aussi avec Christian qui m'avait fait rencontrer Pierre Auvernois la première fois. Donc là, c'était aussi un monsieur d'une génération, d'une autre génération encore, qui lui aussi était très engagé à ce sujet, voilà.
Non, bah c'est cool. Et puis après, effectivement, l'évolution par rapport à maintenant, où c'est quand même beaucoup moins difficile de trouver du vin nature, bah, que ce soit dans la région ou même partout ailleurs. T'arrives encore à découvrir des choses et tu en découvres de plus en plus peut-être, sûrement de toute façon.
J'en découvre pas de plus en plus, mais maintenant, aujourd'hui, oui, ce discours-là qui a clivé les gens, aujourd'hui, je pense que si les deux milieux, c'est-à-dire les gens qui sont conventionnels pur et dur et des fois des gens qui... ne comprennent pas que la finalité du vin aussi c'est d'être buvable, donc sans déviance aromatique, mais si ces deux milieux tirent les uns vers les autres, je pense qu'on peut arriver à retrouver enfin des vins sains à boire, quoi.
Ah oui, ça c'est l'esprit fédérateur et tout dans l'amour de Christophe qu'on aime.
Bah ouais exactement. T'as beaucoup voyagé du coup pour travailler aussi dans plein d'endroits. Est-ce que t'as des endroits qui t'ont marqué plus que d'autres, peut-être, sans dire la clientèle, mais des endroits où tu t'es dit, ça y est, je peux vraiment, je suis libre aussi de donner ma vision des choses et de la porter. Est-ce que t'as été confronté forcément aussi à des restaurants qui étaient à contrario un petit peu contre les vins nature?
Oui, très difficile, oui. J'ai été assez longtemps catalogué aussi de sommelier Bicnic, parce que je proposais justement ce genre de vin. Moi, je disais toujours que la différence entre un vin sain, au moins il a le mérite, un vin nature, et il n'est pas forcément bon, mais il a le mérite d'être sain. Voilà, donc ça c'est plutôt bien.
C'est plutôt pas mal, mais effectivement il y a des gens qui vont dire c'est quoi ce vin, il y a un goût qui est pas normal ou des choses comme ça, je pense.
Enfin, en dehors de parler des viandes aromatiques, parce qu'il y a quand même énormément de vins qui sont quand même très droits et qui n'ont pas de soucis, mais c'est sûr que qualitativement et aromatiquement ça ressemble pas à un vin conventionnel. Ça, de toute manière, c'est exactement comme prendre pour en cuisine ou un plat préparé, un plat dans lequel il y aurait de l'arôme rajouté, d'un arôme exogène chimique qu'on rajoute pour donner un goût, et un plat où on a le goût naturel du légume. Donc forcément, il y a déjà une grosse différence, et tous ceux qui ont l'habitude de boire conventionnel, ben sur les vins nature, même étant droit, ont d'abord, après en premier abord, une surprise, quoi. Ça ressemble pas à ce dont ils ont l'habitude de consommer.
C'est clair. Est-ce que tu as vu à un moment donné, toi, dans la clientèle que tu servais, vraiment une différence, vraiment où là les gens sont plus ouverts, ça y est, un petit peu ça se décante ou
Oui, j'avais trouvé pendant le Covid justement que les gens se posaient enfin les bonnes questions, avaient envie de comprendre aussi. Et malheureusement, les conjonctures économiques n'allant pas dans ce sens. On retourne un petit peu en arrière, je trouve, mais bon, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions et il faut continuer.
Non, ça c'est clair, il faut continuer. Hein. C'est un travail de longue haleine de toute façon, de réussir à faire goûter et à faire changer la vie des gens. Il y a un nom, un chef qui t'a inspiré le plus en te disant tiens, je te laisse, enfin patron, je te laisse porte ouverte aussi pour faire entrer les vins que toi tu aimes.
Oui, en tout cas, un de mes premiers patrons qui était friendly, on va dire, pour utiliser un terme anglo-saxon, amoureux des vins vivants, c'était Philippe Larma à Bourges. Mm-hmm. Et il avait une vraie ouverture sur ça. Et ça, c'était plaisant parce que j'échangeais beaucoup. Il m'a justement laissé rentrer pour la première fois les vins de Christian. Les premiers pétillants naturels qu'on pouvait trouver à Vouvray. Voilà, qui était pas filtré, qui était des fois compliqué à aborder face aux clients, mais il y avait toujours cette petite phrase là, il disait tu leur dis aux clients qu'ils laissent atterrir les voltigeurs et au fond de la bouteille et après ils peuvent boire leur vin. Ça c'était très chouette. Enfin bon, bref, c'est le premier, oui, c'est lui, Philippe Larmin.
OK, d'accord.
Donc apprentissage, tu as commencé voilà, 87-88, tu as bougé un peu dans des maisons assez renommées et après tu t'es installé.
Absolument, en 2005.
Je n'ai même pas parlé dans la présentation, j'ai totalement zappé. Pour moi c'était évident,
partie de sa vie, votre vie, parce que tu n'étais pas tout seul.
Voilà, donc il y avait eu une première création avec l'épicerie gourmande à Villandry et puis... Ensuite, cette création et cette réhabilitation d'un vieux presbytère sur les bords de Loire à Berthenay, sur une zone de terre isolée où le Cher vient se jeter dans la Loire. Ce vieux presbytère du XIIe siècle qui est devenu le bout du monde. Voilà, de 2005 jusqu'à... J'ai arrêté donc en 2014 mon activité. De restaurant. Mais oui, ça, c'était une belle histoire.
Ouais, ça durait quand même un petit moment, effectivement.
Et puis, où là, t'as pu être libre et défendre un peu ce que tu voulais, t'étais chez toi, et voilà.
Alors là, oui, mise en avant, effectivement, de
ce qu'on entend,
de tout mon passif, et surtout, très belle carte de vin engagée sur ce monde de vin vivant, de Vincent.
Ouais, non, mais c'est... Bon, après, comment dire, t'avais combien de références, un petit peu, au bout du monde, ça changeait souvent, j'imagine.
Je suis assez fidèle au vigneron.
Ouais, je sais, c'est pour ça que je pose la question. Parce que...
Donc, ça changeait pas. J'engrangeais de plus en plus. À un moment donné, il fallait pousser les murs. Mais voilà, il y avait beaucoup de nouveautés. Beaucoup de vignerons venaient à ma rencontre justement à ce sujet. Ils savaient que c'était un endroit où ils pouvaient être accueillis et on pouvait parler de ça librement.
Ouais, ben... C'est vrai que c'est plaisant aussi de savoir que tu as un restaurant qui est ouvert pour le faire. Enfin, on parle forcément de chez Gaster avec ton resto, Robin.
Ouais, et puis en plus, on n'est plus dans la même époque, on n'est plus dans la même ouverture. Il y en a quand même quelques-uns, tu vois, en Arthur Hervé et Patricia qui ont aussi enfoncé des portes et eu des belles cartes dans le centre-ville de Tours à des moments où, où ils étaient un peu tout seuls, en tout cas à proposer ce type de vin. Et on sait que les clients, c'est pareil, il y en avait une partie qui connaissait, d'autres qui est moins, qui fallait sensibiliser, ouvrir. En tout cas, il fallait savoir les défendre. C'est des produits avec une typicité particulière qu'il faut savoir expliquer, aiguiller les clients par rapport à leur goût. Et ça demande un savoir-faire et un engagement particulier, je pense.
Absolument, absolument.
Et du coup, cette expérience, donc ça a duré un petit moment, le bout du monde, et c'est terminé. T'as enchaîné direct, du coup, avec Quai de Loire ?
Non, après il y a eu une petite phase de entre les deux, et du coup, je me suis installé avec mon associé Grégory Paillard, et donc
on embrasse.
Nous avons créé la société Quai de Loire. On distribue donc nos sélections de vins aux restaurateurs, cavistes, épiceries fines sur le 37 et les quatre départements autour.
Ouais, moi je t'avais acheté du vin hein, à l'époque, hein, c'est aussi comme ça qu'on s'était connus, forcément aussi par Robin, et puis de faire des anniversaires, des petites fêtes à droite à gauche en plus, mais je t'avais acheté du vin et t'as une sélection forcément qui est pointue et qui a l'image de, je pense, de ce que t'as vécu avant. Et puis
il y avait ce format aussi qui permet au... Ce format de grossiste qui permet aux restaurateurs de constituer une carte et de prendre, de panacher, de pas avoir des gros volumes, de pouvoir faire rentrer plusieurs références en même temps. Et voilà, ça c'est aussi un mode de fonctionnement qui a inspiré d'autres gens, nous, mais qui est très confortable pour les professionnels et qui est hyper important pour pouvoir, parce que constituer une carte, avoir des références, faire rentrer du vin en volume, en direct des domaines, c'est pas forcément facile, ça a un certain coût. C'est un travail, tout le monde n'est pas équipé d'un sommelier. Et dans son établissement, on peut pas gérer ça ou assumer financièrement. Et le format de Quai de Loire permet de pallier à ça, avec en plus les conseils et les recommandations sur la constitution de cartes de Christophe, qui, avec son expérience, ne sont pas négligeables.
Bah, clairement.
Oui, c'est important aujourd'hui. C'est vrai que les restaurateurs, c'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un dans son entourage, que ce soit en salle ou même le cuisinier lui-même, de se dire, bah, je vais faire quoi, je vais acheter quoi. Et j'aimerais constituer une carte pertinente, intelligente, mais j'ai pas les clés. Alors effectivement, on est là pour aiguiller. Et puis après, d'un point de vue commercial aussi, c'est bien pour la trésorerie de ne pas être obligé de prendre des gros volumes et de pouvoir se remettre en question de semaine en semaine. Et du coup, de s'éduquer aussi en même temps au vin par la même occasion.
Ouais, effectivement, tu dis éduquer. Je pense que c'est quelque chose que tu as dû faire toute ta vie, de toute façon, à partir du moment où tu avais des clients en face de toi et que tu devais les conseiller, que tu sois sommelier ou que tu aies ton restaurant, des choses comme ça, tu passes du temps, je pense aussi, et tu le fais volontiers, à expliquer le vin. C'est pas juste, bon, bah voilà, je vous mets ce vin-là parce que c'est ce qui va avec le plat, et puis tu t'arrêtes pas là, quoi, tout simplement.
C'est un vrai plaisir, c'est extraordinaire. Quand on propose ou quand on promotionne une bouteille de vin, on parle aussi du travail de quelqu'un en amont. Et ça, c'est plaisant, c'est vraiment ce qui m'anime. Et puis après, la personne qui est en face de vous, on essaie de coller au plus juste et de lui donner un moment de plaisir avec une lecture facile. La lecture, par exemple, pour les enfants, si on veut les inciter à lire, c'est pas toujours facile en leur donnant un pavé de 500 pages, en disant, voilà, tu me lis ce bouquin. S'il y a des images et que ça commence par la BD, c'est des fois plus facile. Et puis peut-être qu'après, il y a des déclics et que la lecture fonctionne. Donc le vin, je pense que c'est exactement la même chose.
Faut réussir à donner envie, à donner les quelques clés, effectivement, de compréhension pour le faire. Mais je pense que les gens sont... Alors, pas tous, évidemment. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui prennent plaisir à ce qu'on parle aussi du vin pour décortiquer, pour vulgariser aussi certaines choses, parce qu'on a un rôle de vulgarisateur à proprement parler. Nous, des fois, on s'emballe aussi, même, je pense, que ce soit à la radio ou ailleurs, qu'on est avec d'autres personnes qui connaissent un peu moins. On a tendance à utiliser des termes techniques qui nous paraissent évidents. C'est pas facile aussi de redescendre un peu d'un étage et de réexpliquer des choses, mais je trouve que tu le fais très, très bien, en tout cas.
Non, mais merci beaucoup.
Non, mais pour ça, je tiens à le dire, c'est pas juste des expériences et j'ai engrangé des connaissances que je recrache comme ça à proprement parler. C'est aussi voir ce que tu arrives à le faire et ce que tu arrives à faire comprendre aux autres personnes. C'est ça qui est intéressant, finalement.
Bah, y a un truc que moi, je trouve essentiel dans la restauration pour faire ce métier-là, et que ce soit après en sommellerie, en cuisine, en salle, c'est qu'il faut aimer partager avec les gens, faire découvrir, leur faire passer surtout un moment de plaisir. Et voilà, c'est ce qui t'anime complètement. Moi, Christophe m'a beaucoup aidé chez Gaster à rencontrer les vignerons, à constituer la carte, et en plus à partager les connaissances, les connexions. C'est-à-dire qu'il y a toujours mis en avant les producteurs, filer des contacts... de gens. Nous, on se connaît par des réseaux de producteurs interposés. Donc, quand on s'est rencontrés, on savait déjà qu'on était un peu sur la même longueur d'onde en termes de produits. Mais même, c'est-à-dire qu'au cours d'une dégustation où voilà, on devait goûter du vin, bah au final, on est allé voir un nouveau maraîcher, une productrice de cresson, tu vois, qui a retapé une cressonnière naturelle en bio dans le coin. Et on est passé à côté du côté commercial de l'affaire sans que ça ne pose aucun souci, juste parce que oui, c'était le partage qui t'animait, que tu voulais nous faire découvrir ce truc-là. Et du coup, moi, j'ai une vraie sensibilité. Je trouve que ça a un vrai sens, en tout cas, voilà, en termes d'engagement, de produit. Et c'est cool de ne pas avoir qu'un rapport commercial avec les gens.
Bah, clairement, on ne fait pas ça que pour vendre des trucs. C'est aussi le rapport qu'on a avec les gens, ça c'est clair. On parle de vin, mais qu'est-ce qu'on est en train de boire? Est-ce qu'on a un petit peu
Lucille,
avancé?
Un avis, tiens, extérieur.
Vas-y, Lucille.
Bonjour.
Bonjour, moi c'est Lucille.
Bonjour, moi c'est Lucille. Alors déjà, je voudrais juste commencer par dire que je trouve ça très marrant que vous ayez invité Christophe Roublin le jour de la Saint-Vincent, le saint patron des vignerons.
C'est vrai que c'est aujourd'hui.
Un aussi bel ambassadeur des vignerons, un amoureux clair, des vignerons, c'est vraiment génial. Cette coïncidence. Le vin, alors j'aime bien, j'aime beaucoup. Il y a un petit côté cuir au nez que je trouve très agréable. Après, il y a une astringence, et Christophe tout à l'heure a dit cabernet, et du coup, après coup, je me dis, ah oui, ça peut être du cabernet. Du coup, je pense qu'on est sur un millésime pas très solaire. Enfin, moi, je trouve ça un peu astringent, les tanins, je les trouve un peu rêches. Mais c'est quand même assez équilibré, et d'habitude, j'aime pas les cabernets francs, et là, ça me fait du bien à la bouche. Donc,
ouais, c'est pas mal, ouais. Donc, c'est sympa.
Bah, comme tu dis, en plus, il y a une petite astringence, une petite dureté, mais en même temps, c'est quand même mûr, parce qu'il y a ce côté cassis, tu vois, qui fait pas du tout variétal, poivron vert du cabernet franc, qui fait que ça a été ramassé mûr. Et l'astringence peut venir un petit peu de l'élevage, ou peut-être de la rafle sur un millésime, si c'est un millésime froid, qui a moins mûri que le grain. Mais en tout cas, ouais, cabernet, bon.
Je pense qu'on est d'accord sur le cabernet hein, dans l'ensemble.
Sand, t'es d'accord?
Quand tu me regardes, Robin, j'en sais rien.
Bah, donne un autre cépage, au pire, tu vas le trouver, on sait pas, sans entendu. Non, mais on te met une. Tiens, débrouille-toi avec ça, Sand. À ton avis, c'est du cabernet ou pas?
Bah oui, du coup, je vous
suis.
Bah oui,
évidemment. Je pense, mais bien sûr. Clin d'œil. Du cabernet? Ça a bougé un petit peu? Qu'est-ce que tu sens, Christophe là?
Oui, le vin a bougé. Il y a un côté aussi il y a un côté calcaire, un peu osseux. C'est ça ce qui amène, je trouve.
Ok, on rentre dans la partie technique de Christophe Roublin.
Non, mais c'est que ça
les
amène.
Quand tu leur parles de pinard à la radio, c'est calcaire osseux. Ok.
Vous parlez un peu d'astringence, donc c'est ce mélange entre cette acidité assez présente, mais en fait, je pense que c'est lié à ça, quoi. C'est vraiment lié au caractère du cépage, donc du vin et de son terroir.
Et du coup, cabernet, plutôt dans quel coin, à ton avis?
Moi, je pense que on est
sans donner la réponse, on va dire.
Il a dit dans le Veyron, tu vois. Ouais. Donc,
je pense qu'on est à un bel endroit. Je parlais tout à l'heure du Cher qui jette dans la Loire. Je pense
que d'un petit village.
Je parle d'un endroit où la Vienne se jette dans la Loire.
Un petit village d'irréductible.
Ouais, c'est ça, exactement.
Voilà, et je pense à un vigneron où justement là-dessus il y a eu un élevage très long, assez long, qui a peut-être un petit peu fatigué la matière, et du coup cette astringence un peu forte, je pense qu'elle vient de là. Je pense à Camp de Saint-Martin, hein. et je pense qu'on boit un vin de Patrick Corbineau.
Ouais, ça ressemble à ça.
Ça ressemble beaucoup à ça, mais ça m'emmène aussi un peu sur les. On est dans cette aromatique chez Jérôme Lenoir.
Ouais, j'allais te dire.
Gérard Maroula, qui est un petit peu plus loin.
Fait un peu. Alors, il y a un truc aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, mais c'est que en buvant des vins naturels et depuis un moment, il y a certains vignerons qu'on a l'habitude de goûter. Et du coup, tu reconnais aussi des fois la pâte de quelqu'un, plus que le cépage, la région, etc. Il y a des moments où tu mets ton nez dans le verre et où tu dis, tiens, ça c'est le travail personne. Ça ressemble, voilà.
Ou comme tu disais, le style 2, effectivement, et au moins après t'as un panel de vignerons où tu sais que t'as...
Tu travailles comme ça, bien sûr.
Tu travailles comme ça, qu'on se style-là, de toute façon. On va se laisser un peu de temps, on va se réécouter une petite musique, comme ça on se laisse le temps de la réflexion, on va enlever la chaussette pour découvrir ce que c'est, si t'es bon ou pas. Non, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. C'est pas une question d'être bon ou pas bon de toute façon.
On va essayer de trouver le millésime. Si on a le vigneron et qu'on a le millésime, ce sera bien.
Ah voilà, on sera champion.
Ouais, grave, c'est clair.
Lulu a donné une indication qui me paraît pas mal.
À quel niveau ?
Millésime.
Bon, on va se réécouter de musique. Qu'est-ce qu'on écoute après ?
Christophe, qu'est-ce que tu veux écouter ?
Après, on peut écouter Monsieur K. Monsieur K, c'est né d'un artiste tourangeau qui a écrit ce titre en mangeant au restaurant. Et du coup, de cette histoire, nous avons tourné un clip dans le restaurant. Voilà, donc c'est un petit flashback pour moi.
Petit clin d'œil.
Ok, c'est parti.
Ah, vous dansez bien, mademoiselle. Vous êtes bonne coquine. Vous ne dormez pas. Vous êtes si jolie. J'adore la France. J'adore la France. Face à la connerie de certains.
Toupie.
Eh oui, j'utilise le pluriel.
Or le toupie.
Car il m'est dur de vous dire un. Ma plume se remet en effet. Même s'il n'y a rien à attendre de certaines chansons à la mode, permettez-moi de me surprendre à voir l'écriture et son code. Que je peux vous dire ce genre de choses et ce complexe. Vous ne savez pas bien où l'anglais passe mieux et ça vous va.
Excuse me, I'm French and you can't stand what I say. I'm sorry, sorry, sorry. I'm French and you can't stand what I say.
Excuse me, I'm French. Sorry, 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 I'm French, you can't stand what I say. Je sais, je suis un prétentieux, un psychopathe de l'écriture. Seulement je compte faire de mon mieux pour améliorer mes tortures. Je suis le doigt sur la détente, le virus au fond du caleçon. Rien pourtant, je tente de t'appeler monsieur Ducon, Ducon.
Excuse me, I'm French, you can't stand what I say. I'm sorry, 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 I'm French, you can't stand what I say. Excuse me, I'm French, you can't stand what I say. I'm sorry.
Vous êtes toujours sur Radio Béton 93.6.
Qu'est-ce qu'on bouffe avec Christophe Roublin ce matin ?
Exactement, on a écouté, alors tu nous parles un petit peu, bon, tu en as déjà un petit peu du coup parlé de Monsieur K, donc tu avais dit il a écrit ça au restaurant, mais dans ton restaurant du coup, le bout du monde, effectivement.
Voilà, et je ne savais pas du tout à l'époque, un jour il est venu me dire, voilà maintenant que j'ai écrit ce titre, j'aimerais réaliser un clip, et est-ce que ce serait possible d'avoir le restaurant pour 24 heures pour tourner ce clip ? Et j'aimerais que vous, et à l'époque Lulu, qui travaillait en salle avec moi, pas la Lulu du aujourd'hui, une autre
Lulu,
avait tourné le clip ensemble. Voilà, donc c'est un bon souvenir.
Excellent, c'est cool. Bon, bah, le vin, on va avancer un petit peu. Du coup, on a parlé de millésime un peu en off pour essayer d'avancer un petit peu. Donc, on a parlé déjà dans d'autres émissions de l'effet millésime que justement, sur des vins comme ça, il y a une vraie importance sur le millésime parce que là, ça nous donne un peu quelques indications. En tout cas, on a des idées un petit peu en tête sur les millésimes. On avait parlé, t'avais parlé de 2014.
Ouais, on était sur ce genre de millésime. Alors après, ça pourrait être 2013 aussi ou 2011 dans le même profil. À ce stade d'évolution, c'est toujours un peu difficile de juger trois millésimes qui sont maigres et voilà. Et après, si c'est plus jeune, on verra.
Ouais, okay. On verra, ça dépend. Et puis effectivement, en plus, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont pas du tout calés sur le côté millésime, il faut un peu d'expérience pour le coup pour en parler. Autant goûter du vin, on peut vite découvrir un peu ce que c'est. Mais
ça peut être plus vieux, hein. Ça peut être 2006 ou des millésimes.
Oui, t'as dit tous les millésimes sauf le bon. non, c'est pas vrai. Mais écoute, alors, on est bien. Ça y est, j'ai découvert la bouteille. Mm-hmm. Heureusement que je ne me suis pas fié à l'enveloppe. On remercie Fanfan pour les erreurs sur l'enveloppe, mais on connaît les étiquettes et les vignerons.
Ouais,
et donc, on est bien du côté de Chinook. C'est bien du Cabernet Franc, mais on n'est pas chez Patrick Corbino et chez Jérôme Lenoir. Du coup, à l'époque de son père, je pense bien.
J'ai
et pensé c'est
ça.
Les Roches 2009. Fait à Beaumont-en-Veyron, pour le coup, t'avais le Veyron. On avait quand même bien le cépage, l'endroit, ça ressemble à ça. Mais voilà.
2009, bah ça fait pas 2009 parce qu'on en parlait du millésime. 2009, c'est un millésime qui est quand même assez chaud. Quand même plutôt chaud.
Ah, je me rappelle pas du tout. Alors là, mon gars, en 2009, moi j'étais dans la fiesta, dans ma jeunesse, l'état du millésime et du vin.
Bah, j'ai commencé un tout petit peu. J'ai commencé un tout petit peu après la restauration et du coup, on goûtait beaucoup de 2009 à l'époque. Donc c'est pour ça, moi, je trouve qu'il y a pas forcément. Alors je goûtais un peu moins de Loire à cette époque-là, les 2009 de Loire, je connaissais moins. Pour le coup, j'étais dans le sud de la France. Mais c'est pas du tout typé ça. Effectivement, 2009, millésime un peu plus solaire en général, un peu partout en France. Toi, ton 2009, t'en penses quoi un petit peu là de ce vin?
Bah, gros big up parce que j'en ai servi beaucoup et voilà, ça me rappelle plein de choses. J'ai forcément beaucoup bu ce vin, beaucoup goûté ce vin.
Et ça faisait un moment.
Et j'ai été induit en. Enfin, je pensais à Jérôme aussi, à Jérôme.
Ça faisait partie un peu des deux personnes qui ont un travail un petit peu similaire et qui font ce type de vin.
À vrai dire. Avec le recul, je pense que j'aurais dû aller sur Jérôme parce qu'on a une matière qui est beaucoup plus souple. On aurait peut-être eu des tanins un petit peu plus chauds chez Patrick. Mais enfin bon, après ça, c'est trop technique.
Et cette bouteille vient de l'épicerie de Jo.
Et voilà, oui. Et Place Rabelais.
Ouais, tout à fait. Ouais, boulevard Giraudot et à côté de la Place Rabelais. Et voilà, une super épicerie engagée sur les produits avec une belle sélection de vins et pas mal de cépages typiques du coin. Ils ont une sélection assez chinée. Et voilà, faut pas hésiter à y aller. En tout cas, très belle sélection.
Et plutôt qu'une recommandation un petit peu de cuisine que tu nous fais d'habitude, Robin, est-ce qu'on peut pas en profiter d'avoir aussi un sommelier, entre autres sommelier, à la table pour faire surtout un petit accord mais vin qu'on fait pas trop d'habitude. Là, on parle de vin et tout ça, mais qu'est-ce qu'on a envie de manger avec ce genre de vin?
Bah là, on est saison, donc moi typiquement là, ça me donne envie d'un coq au vin avec ça. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent aller. On peut faire un bourguignon, on peut faire pas mal de choses.
Un plat en sauce, là. J'ai envie d'un plat en sauce, un truc
ouais,
comme ça.
Un
et
plat
tout,
de bœuf braisé
ça
avec
me donne
une sauce
vraiment
brune, un truc
envie
assez.
De ça, voilà.
Ouais, et puis des vins qui ont un peu d'âge comme ça, en plus, on peut pas hésiter à mettre un peu de truffe potentiellement, faire un petit rappel sur les arômes de sous-bois. Moi, j'aime bien.
Surtout
faire
que ça y est, on a commencé là. Là, on est en plein dans la saison intéressante, quoi. À partir de mi-janvier, là, jusqu'à mi-février. Alors après, j'ai eu Denis au téléphone puisque j'ai commandé des truffes pour moi cette semaine pour le restaurant. Et apparemment, grosse baisse de production due un petit peu au froid.
Ouais, trop
et
froid.
À la gelée. Du coup, voilà, les truffes qui sont pas assez enterrées gèlent et meurent et perdent un peu de leur aromatique. Donc, mais en tout cas, non, on est vraiment dans le pic de la saison. Aromatiquement, c'est une matière délicieuse en ce moment, quoi.
Et puis, comme on avait dit, donc, ces deux émissions avec Denis, le mois de décembre étant passé, c'était aussi le pic en termes de prix. Là, c'est le bon moment pour acheter de la truffe. Un peu moins cher au kilo, forcément. Ça coûte toujours un peu d'argent, mais
on
peut
en profite pour teaser un peu la semaine prochaine. Mais on aura, du coup, l'associé de Denis, Cyril, qui est à la ferme de la Georgerie, Rousier de Touraine, qui fait des truffes avec Denis, et Audrey, sa compagne, qui bosse avec lui sur l'exploitation de céréales.
Tu spoil.
Et qui fait des pâtes. Ouais,
Je donne envie aux gens.
Voilà, exactement. Mais on reparlera un peu truffes, céréales, engagement et confédération paysanne aussi.
Exactement, il y a plein de choses à parler. Merci Christophe, merci d'être venu aujourd'hui, c'était vraiment un plaisir. Comme je l'ai dit, moi j'aurais bien fait, 24 heures entières d'émission pour parler de plein de choses parce que c'est toujours un plaisir de t'avoir et de parler avec toi de toute façon. Donc merci d'être venu.
Bah tu reviens là.
Bah oui.
Avec grand plaisir.
Mais t'auras pas le choix, hein. On va te kidnapper, tu reviendras, c'est sûr.
Et t'as une petite adresse à recommander juste avant de quitter ? Une adresse, un endroit où t'aimes manger ou aller acheter des produits, une adresse que t'as envie de recommander ?
Sur Tours précisément ?
Non, enfin dans le coin, dans l'environ, tu peux envoyer les gens se promener. Hein, c'est...
Bah écoutez, j'ai toujours plein d'idées, mais je peux vous emmener chez un ancien apprenti à la Chapelle-sur-Loire, mm-hmm. Le café de la Loire, chez Clément Boutreau.
Ouais, qui a repris ça, mais...
Un chouette petit endroit, et là on va arriver au premier beau jour, n'hésitez pas à aller y faire un tour. En réservant au préalable, vous passerez un bon
super
moment.
Petite maison sur le bord de Loire, à 100 routes qui passent devant directement sur le bord de Loire avec des chouettes Canon. Produits, une cuisine.
Cuisine de maman et belle sélection de vin.
Ouais, à n'en pas douter. Bon, bah, vous étiez bien dans l'émission Qu'est-ce qu'on bouffe sur Radio Béton 93.6 et on va se quitter effectivement encore avec un petit son. Sand, qu'est-ce que tu nous mets comme petit son que Christophe nous a recommandé ?
Eh bah, j'étais parti sur Alpha Blondie là.
Eh ben, on va partir sur ça, ça doit être ça.
Allez, ça va donner la pêche à tout le monde.
Allez, salut, à la semaine prochaine.
Salut.
Salut.
Toutes les lois de la logique, je vous dis science sans conscience.